Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzambagate Kakawe. Bienvenue mesdames et messieurs à l'écoute de ce journal en français dont voici d'abord les principales articulations. Le tribunal de grande instance de Kayanza a requis ce samedi une peine de prison à vie contre un homme connu sous le nom de Jean Bizimana. Il est accusé d'avoir tué son épouse. C'est une peur de se retrouver expropriés de leurs terres pour les habitants de la colline Gakungwe, en commune Kabezi de la province de Bujumbura. Ces habitants demandent au gouvernement de revoir son plan d'expropriation. Et puis, grogne des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ils disent recevoir du haricot de mauvaise qualité. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une peine carcérale à perpétuité a été prononcée dans l'après-midi de ce samedi par le tribunal de grande instance de Kayanza, à l'endroit d'un certain Jean Bizimana, originaire de la colline Rukere. Nous sommes dans la commune Kabarole, en province de Kayanza. Il a été condamné pour avoir tué sa femme dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier. Ses parents ont été condamnés à 20 ans de réclusion pour complicité dans cet assassinat. Le point avec Josine Kaze.
Lors de leur comparution devant le tribunal, Bizimana Jean, le mari de la défunte Jeanne Manafacha, ses parents Nukamazina Emmanuel et Maweni Mana Euphémie, ont été accusés d'avoir tous participé à cet assassinat. Selon le tribunal, le couple s'était disputé pendant la journée avant que le pire ne se produise tard dans la nuit. Le soir, la femme a voulu rentrer chez ses parents où elle envisageait de donner naissance à l'enfant d'une grossesse de 8 mois qu'elle portait. C'est quand Bizimana l'a raccompagnée chez ses parents qui habitent à Rorero, une colline voisine, qu'il a tué par étranglement avant de fuir. Le corps sans vie n'a été retrouvé que vers 4 heures du matin par des habitants proches du lieu du drame qui avaient entendu des cris. Interrogé à propos de la mort de sa femme suivie de sa fuite, Jean Bizimana a dit qu'il ne l'a pas tuée, mais que cette dernière est décédée après avoir tout simplement glissé, puis il a pris le large parce qu'il avait trop peur. S'agissant des parents de Bizimana Jean, le tribunal les a accusés de complicité dans cet assassinat parce que les habits de la défunte ont été retrouvés dans leur habitation. Une peine carcérale à perpétuité a alors été requise contre les 3 personnes. Après la mise en délibéré, le tribunal a condamné Jean Bizimana à une peine d'emprisonnement à vie, tandis que ses parents ont été condamnés à 20 ans de réclusion ferme. Le petit frère de Jean Bizimana, âgé de 17 ans, lui ayant été acquitté, a signalé que Jean Bizimana était en cavale depuis l'assassinat de sa femme et n'a été arrêté que plus tard dans un marché de la commune Ruhororo en province de Ngozi.
Et puis, les proches des détenus de la prison centrale de Lutana ainsi que certains membres du personnel de cette prison dénoncent ce qu'ils qualifient de persécution qu'ils subissent ces détenus de la part du directeur de cette prison. C'est après que le procureur ait surpris un de leurs co-détenus en pleine débauche sexuelle et le directeur de la prison a fait payer tous les prisonniers une somme de 20 000 francs burundais. Il écrit en injustice le point avec Evelyne Mukeshimana.
Les faits ont commencé dimanche dernier quand un prisonnier prénommé Olivier, plus connu sous le sobriquet de Djegeza, a été surpris par le procureur de la République à Lutana en plein débat sexuel avec une fille dans un des bureaux de l'administration pénitentiaire. Selon ses sources, le procureur de Lutana aurait été informé de cette situation, qui était connue par le personnel pénitentiaire, suite à d'importantes sommes d'argent collectées par ce personnel. La fille a été conduite au cachot du commissariat communal de Lutana et le prisonnier Olivier remis à l'intérieur de la prison. La fille a été libérée 2 jours après. Selon des sources au sein du personnel pénitentiaire, le directeur de la prison a ensuite accusé les autres prisonniers d'avoir révélé ce cas au procureur. Le directeur de la prison a alors obligé tout prisonnier à payer une somme de 20 000 francs burundais. Au total, une somme de près de 10 millions de francs auraient été collectées selon toujours ses sources. Le personnel pénitentiaire accuse la direction de cette prison de collecter une somme de 300 000 francs pour les détenus qui disent avoir besoin de rapports sexuels et 50 000 francs pour louer un des bureaux utilisés comme chambre. Les prisonniers disent qu'ils ont toujours été victimes des collectes illégales d'argent. Ils demandent aux autorités pénitentiaires hiérarchiques de suivre les exactions dont ils sont victimes.
Merci Evelyne, c'est la grogne chez les habitants de la colline Gakungwe. Nous sommes en commune Kabezi de la province de Bujumbura. Ils accusent le gouvernement burundais de vouloir les exproprier de leurs terres. Ils demandent que ce plan d'expropriation soit suspendu. Le point avec Eddy Claude Ninazwe.
Ces habitants de la colline Gakungwe disent être étonnés d'un plan du gouvernement qui veut leur spolier leur terre natale. Ces habitants expliquent qu'ils détiennent même des titres de propriété. Ils accusent les autorités administratives d'être à la tête de ce plan.
Imaginez-vous des habitants qui sont nés et grandis sur cette colline et qui viennent même d'y passer plus de 50 ans. Et après, on nous dit que cette terre appartient à l'État. Nous connaissons bien que la spoliation est une pratique du gouvernement, mais cette terre nous appartient. Et pourtant, les autorités provinciales continuent jusqu'à présent de dire aux habitants qu'il est interdit de construire sur cette terre située en bas de la route.
Les habitants indiquent également qu'un grand nombre de policiers étaient toujours présents sur cette colline pour dissuader ceux qui veulent construire leur maison. Ils demandent que ce plan de spoliation soit suspendu.
Nous voudrions donc que les lamentations des habitants de la colline Gakungwe soient entendues. Nous pensons que le président n'est pas encore au courant. Maintenant, la police est toujours présente sur les lieux pour empêcher ceux qui veulent construire. Nous lançons un cri d'alarme pour que nos lamentations soient entendues.
Suite à ces lamentations, la radio Inzambagate Kakawe a tenté de joindre par le téléphone Espérance Abonimana, administrateur de la commune Kabezi, ainsi que Désiré Sengiumva, gouverneur de la province Bujumbura, pour connaître leur version des faits mis en vente.
Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont mécontents. Ils disent que le programme alimentaire mondial leur donne du haricot de mauvaise qualité via l'organisation World Vision. Cela arrive au moment où ces réfugiés n'ont aucune autre nourriture que celle distribuée par ces organisations humanitaires. Le point avec Josephine Jones-Hunziman.
Un véritable conflit s'est déclenché entre le PAM qui a distribué son haricot en passant par l'organisation World Vision et l'organisation du gouvernement tanzanien en charge des réfugiés au camp de Nyarugusu. Le responsable de cette organisation du gouvernement tanzanien a interdit la distribution de ces haricots comme le rapportent les réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu.
Ce conflit entre le PAM et le représentant du gouvernement tanzanien a commencé depuis le mois de septembre. Le PAM a distribué ses haricots aux réfugiés burundais et congolais qui habitent ici au camp de Nyarugusu par le biais de l'organisation non gouvernementale World Vision. Ils ont constaté que ce haricot ne cuit pas et mettent du temps pour cuire. Ces réfugiés ont fait le rapport auprès de leurs représentants. Le responsable du camp de Nyarugusu, qui représente l'organisation du gouvernement tanzanien, a interdit la distribution et a même ajouté que le bois utilisé pour cuire la nourriture est difficile à trouver dans son camp.
Pour s'assurer de la réalité de la nature de ce produit, ils ont pris 50 kg du haricot qu'ils ont départagé en deux. 25 kg ont été trempés dans l'eau toute la nuit avant d'être cuits et 25 autres ont été mis directement sur le feu sans être trempés. Et ceci s'est déroulé en présence des représentants de ces deux organisations dans le but de vérifier le nombre d'or qu'ils prennent pour cuire.
Ils ont constaté que ce haricot a pris du temps pour être cuit. Le premier lot a pris 4 heures, le second 5 heures et enfin le dernier 6 heures. Selon les représentants du gouvernement, ce haricot prend du temps pour cuire. Nous avons utilisé beaucoup de moyens pour le faire cuire. Il a fallu 4 véhicules chargés de bois. Personne ne peut cuire son haricot le matin et avoir la certitude de le présenter à table midi pour les élèves qui rentrent de l'école ou qui y retournent. Les réfugiés ont eux-mêmes confirmé ce rapport du représentant du gouvernement tanzanien. Son haricot ne cuit pas.
La Tanzanie a interdit aux réfugiés burundais vivant dans les camps d'exercer des activités génératrices de revenus et encore moins cultivées. Bref, ces réfugiés burundais vivant du camp de Nyarugusu dépendent aujourd'hui uniquement de la nourriture distribuée par les organisations humanitaires.
Inzamba.
Place maintenant au magazine Au cœur de la société. Aujourd'hui, on se penche sur l'aboutissement des pourparlers de Nairobi entre la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles opérant sur son sol. Ce magazine nous est présenté par Pierre Gahungu.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Des pourparlers de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23 qui affrontent l'armée congolaise près de la ville de Goma, doivent débuter lundi le 21 novembre au Kenya. Quelle chance peut-on donner à ces pourparlers de Nairobi, alors que les groupes armés provenant des pays voisins qui sont sur le sol congolais sont laissés de côté? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société, de ce samedi 19 novembre 2022, à la présentation Pierre Gahungu. Bienvenue. La République démocratique du Congo abrite plus de 120 mouvements armés selon les Nations Unies. Notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine revient sur les principaux mouvements rebelles qui sont qualifiés de déstabilisateurs par les Nations Unies.
Les forces démocratiques alliées ADF, originaires de l'Ouganda, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, le mouvement du 23 mars M23 et le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara, voilà les principaux groupes armés qui déstabilisent la région des Grands Lacs selon les Nations Unies. Ils font partie de plus de 120 groupes armés présents sur le sol congolais. Dans leur rapport intitulé Baromètre sécuritaire du Kivu, le groupe d'études sur le Congo et Human Rights Watch indique que les groupes armés burundais présents sur le territoire congolais sont le Red Tabara, le plus actif, et le FNL. Selon ces organisations, le groupe rebelle Forebu a disparu. Le mouvement rebelle Red Tabara est né juste après les élections communales de mai 2010, les élections volées par le parti CNDD-FDD. Selon les principaux partis de l'opposition de l'époque, les candidats de l'opposition se sont ensuite retirés des présidentielles qui allaient suivre. Il s'agissait de Domitien Ndayizeye du Sarwanya Frodebu, Agathon Gwasa de FNL, Alexis Sinduhije du MSD, Pascaline Kamayano de l'UPD Zigamiwanga et Léonard Nyangoma du CNDD. Ces leaders de l'opposition exigeaient l'organisation de nouvelles élections communales, ce qui n'a pas été fait. Les forces nationales de libération FNL de leur côté ont fait défection au FNL d'Agathon Gwasa qui avait combattu le pouvoir en place au Burundi pendant une quinzaine d'années avant le cessez-le-feu de 2008. Le 26 octobre dernier, au Conseil de sécurité, la France a appelé tous les groupes armés congolais à participer au processus de démobilisation et réintégration et aux groupes armés étrangers à déposer immédiatement les armes pour regagner leur pays d'origine. Le représentant de la RDC, lui, a demandé au gouvernement du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda de dialoguer avec leurs groupes rebelles respectifs pour régler les différends qui les opposent.
Dans ce genre de crise régionale, il est important que toutes les parties prenantes dans la crise participent dans le dialogue pour espérer une solution durable. C'est l'avis du Dr Alphonse Rugambarara, un des acteurs dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.
Si les médiateurs veulent, ou même les chefs d'État actuels veulent vraiment résoudre de façon globale la question de la sécurité dans la sous-région, il faut qu'ils s'interrogent les raisons qui ont poussé au non-respect des différents accords. Nous avons des accords d'Arusha multiples, nous avons l'accord de Rusaka, nous avons l'accord de Sun City, de Nairobi, etc. Tous ces accords n'ont pas été respectés. Alors il faudrait qu'on se demande pourquoi. Est-ce que réellement il y a une volonté de la part des chefs d'État de la région d'aboutir à une paix où les intérêts des uns et des autres seraient sauvegardés? Est-ce que ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'influence des pays qui ont des intérêts dans cette sous-région, notamment les pays occidentaux, est-ce qu'ils veulent réellement qu'il y ait la paix? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des conflits extérieurs ici dans notre sous-région? Cette sous-région, c'est la région qui produit le plus de réfugiés en Afrique, si pas au monde. Les chefs d'État devraient se sentir responsables de cette situation et qu'ils s'attellent à vraiment ramener la paix dans la région. Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas invités, vous savez, la dynamique d'une rébellion, personne ne peut la contrôler. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'elle est petite, mais demain, deux années, trois années après, elle devient grande. Parce que les problèmes internes qui ont poussé cette rébellion à naître n'ont pas été répondus. Si on se dit aujourd'hui que ce joueur est un petit joueur, mais demain il va grandir. Donc il vaut mieux résoudre les problèmes à temps.
Les initiatives diplomatiques du président angolais João Lourenço, qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Sirgel, et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté de l'Afrique de l'Est, se sont multipliés ces derniers jours pour tenter de résoudre le conflit. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Merci Pierre et pour toutes ces précisions. Et comme tous les samedis sur la radio Nzambagate Kakao, nous terminons ce journal par la revue de la presse avec Karine Doussabé.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. La culture de la qualité est encore en arrière au Burundi, écrit l'hebdomadaire Iwachu. En marge de la célébration au Burundi de la journée mondiale de la normalisation, ce mercredi 16 novembre, Severien Sinda Ikengera, directeur général du BBN, a fait savoir que le BBN compte assez peu d'employés pour effectuer le travail de certification des produits et services dans tout le pays. La culture de la qualité ici au Burundi est encore en arrière, mais nous sommes en train de tout faire pour que le Burundi soit au même niveau que les autres pays en termes de management des produits et services, et surtout les produits alimentaires, a jugé Severien Sinda Ikengera. Interrogé sur les produits fabriqués de manière artisanale, le dirigeant du BBN a indiqué que ceux-ci ne sont point concernés par la certification et que sont visés par la certification du BBN les produits fabriqués par les petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre reçoit en audience l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et la représentante de l'OIM au Burundi. ABP Info écrit que le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a reçu en audience successivement l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, Alain Van Gouch, et la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Burundi, OIM, Madame Vijaya Suri, le lundi 14 novembre 2022. Au terme de cette audience, le porte-parole du Premier ministre, Moïse Nkurunziza, a indiqué que le Premier ministre burundais a répondu aux inquiétudes de l'ambassadeur Alain Van Gouch que des sanctions pourront être prises contre les Burundais qui rentrent de la Serbie, comme l'avait annoncé le porte-parole du ministère en charge de l'Intérieur. Le Premier ministre Ndirakobucha l'a tranquillisé et par cette même occasion a tranquillisé ces Burundais qu'aucune sanction ne sera prise contre eux car ils n'ont violé aucune loi. Le Burundi et la Serbie ont par ailleurs signé un contrat permettant d'entrer et de sortir sans visa entre les deux pays. ABP Info ajoute qu'à sa sortie de l'audience, la chef de mission de l'OIM au Burundi a eu des échanges qui ont en grande partie porté sur l'emploi des jeunes, la question de la traite et trafic des êtres humains, le soutien à la réintégration des réfugiés à leur retour, l'assistance des déplacés internes impactés par les catastrophes naturelles et tous les autres sujets prioritaires liés à la mobilité des personnes et à la migration, conclut ABP Info. Exploitation artisanale des minerais, une part de plus de 60% enregistrée, titre Burundi Echo. Cet hebdomadaire rappelle que nous sommes à une année et demie de la suspension des activités des sociétés minières. Malgré cette suspension, l'exploitation artisanale des minerais par les coopératives minières a repris. Néanmoins, cette exploitation enregistre une perte en minerais de plus de 60% liée aux méthodes archaïques utilisées, écrit cet hebdomadaire. 106 coopératives minières exploitent l'or dans 124 sites, a révélé Gervain Ndirakobucha, premier ministre du Burundi, le 24 octobre à Ngozi, lors d'une réunion d'évaluation des activités d'exploitation des minerais. À la question de savoir quand la reprise des activités par les sociétés minières, Burundi Echo écrit que la raison de cette suspension était que les conventions entre ces sociétés et le gouvernement du Burundi étaient caractérisées par un grand déséquilibre qui risquait d'entraîner de grandes pertes pour le pays. Au niveau du ministère en charge des mines, on signale que le code minier qui vient rectifier le tir va être réétudié par le Conseil des ministres. Par la suite, il sera adopté par le Parlement avant d'être promulgué par le chef de l'État. Et c'est ici la fin de cette revue de la presse. Vous étiez avec Karine de Savé. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Et voilà, chers auditrices, auditeurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et tous pour votre aimable écoute. À la présentation, vous étiez avec Alexandre Nyungeko qui vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et bon week-end à tous.